Vous écoutez France Culture.
Réplique, les enjeux de la guerre en Syrie, avec Jean-Pierre Filiu et Renaud Girard. Janvier 2013, paraissait l'essai de Jean-Pierre Filiu, Le nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Le livre se concluait ainsi. L'ancien régime est mis à bas, non par une intervention étrangère, non par un consensus extérieur, mais par le peuple syrien. Ce nouveau Moyen-Orient, que les néoconservateurs croyaient enfanter en Irak en 2003, commence aujourd'hui d'émerger en Syrie. En cet an 2 de la révolution arabe, voici venue l'heure des peuples. Un an a passé, un an de combats acharnés, d'horreurs sans nom, un an de destruction et de massacres. Et je voudrais demander à mes deux invités, Jean-Pierre Filiu, qui est professeur à Sciences Po, et Renaud Girard, grand reporter au Figaro, si cette conclusion est toujours d'actualité ou si la réalité dissipe cruellement l'illusion révolutionnaire. Jean-Pierre Filiu.
D'abord, merci de cette citation. En tant qu'historien, je persiste et signe, mais justement en m'inscrivant dans la longue durée de l'histoire. Ce que nous voyons aujourd'hui de manière paroxystique en Syrie, mais partout dans le monde arabe, est à mon sens le fruit et l'aboutissement de deux siècles de révolution et de renaissance arabe, ce qu'on appelle la Nahda, et donc de confrontation entre un ordre ressenti comme inique par ce qu'imposait de l'extérieur et une reconstitution par le bas de sociétés en lutte. Ça peut prendre des formes plus pacifiées en Tunisie, qui vient, et c'est un immense bonheur, d'adopter une constitution qui concilie les revendications des courants nationalistes et islamistes. Mais face à toute révolution, il y a une contre-révolution, et ce qui se passe en Syrie, dans un ordre moins violent en Égypte, est une contre-révolution déchaînée. Et l'heure des peuples, je suis convaincu qu'elle est toujours là. Et d'ailleurs, si j'ose dire, je l'ai rencontrée l'été dernier en m'infiltrant à Alep, dans les zones tenues par la révolution, et où ce que j'ai constaté allait bien au-delà en termes de mobilisation populaire que ce que je pouvais anticiper. Et d'ailleurs, à Alep, ces dernières semaines, les révolutionnaires ont réussi à expulser Al-Qaïda. C'est ce qu'ils appellent leur seconde révolution, ce qui prouve qu'ils ont non seulement des ressources politiques et humaines pour tenir bon face à une machine de guerre déchaînée, mais aussi pour se débarrasser de ces compagnons de route qui étaient devenus leurs pires ennemis, c'est-à-dire les djihadistes.
Oui, mais Jean-Pierre Filiu, cette frontière que vous tracez entre révolution et contre-révolution, l'histoire que vous racontez dans votre livre « Le nouveau Moyen-Orient », la brouille me semble-t-il quelque peu, puisque vous dites que Assad, lorsqu'il était ministre de la Défense en juin 1967, a diffusé un communiqué, le fameux communiqué 66, annonçant avant qu'elle ait eu lieu la prise de Kounetra dans le Golan par Israël. Et dès lors, la propagande islamiste, dites-vous, a affirmé qu'Assad avait cédé le Golan à Israël, alaouites et juifs étant censés partager la même haine active de l'islam. Un peu plus loin, vous parlez de l'intervention au Liban de la Syrie en juin 1976 contre l'OLP et le mouvement national libanais, ce qui a conduit les islamistes en Syrie, a désigné le régime Assad comme un régime hérétique. Et donc, ils ont condamné les turpitudes des Alaouites au service des croisés. Et un peu plus loin encore, vous dites que à Hama, il y avait eu une révolte qui a été réprimée de manière extrêmement brutale par Assad, par le père, Hafez el-Assad, fait des dizaines de milliers de morts, mais cette révolte était conduite par des commandos djihadistes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que tout cela préparait l'actuelle révolution et que donc celle-ci a des traits, disons, d'emblée très inquiétants?
Alors, je pense que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, hein, j'étais étudiant à 18 ans, d'être à Alep au moment de cette première guerre entre le régime et les frères musulmans, hein, qui s'étaient organisés en commandos militarisés, qui pratiquaient un terrorisme confessionnel tout à fait assumé, c'est-à-dire qu'ils tuaient un alaouite parce qu'il était alaouite, et les représailles étaient aussi sauvages. Et donc, ayant eu cette expérience précoce, j'ai vu comment la révolution qui a donc commencé en Syrie en mars 2011 s'en distinguait. Et comment, au contraire, Bachar el-Assad faisait tout pour que cette révolution devienne la même hydre que celle que combattait son père de 80 à 82. On ne peut pas nier qu'il ait en partie réussi, mais ce n'était pas des traits constitutifs de cette révolution. Il y a en partie réussi parce qu'il a libéré des leaders djihadistes qui aujourd'hui perpètrent les horreurs que l'on sait, et il y a aussi réussi en faisant tomber la révolution, mais avait-elle une alternative, dans le piège de la militarisation, qui a automatiquement confessionnalisé le mouvement qui ne l'était pas au début.
Renaud Girard.
D'abord, je connais moins bien la Syrie que Jean-Pierre Filu, parce que je ne parle pas arabe, alors que lui parle arabe. Il nous a dit d'ailleurs qu'il avait été étudié le terrain syrien dès 18 ans. J'ai lu son livre, qui est fourmi d'informations. Ce qu'on m'a dit, moi, j'ai rencontré par hasard à Damas, il y a un an et demi, en septembre 2012, l'évêque d'Homs. Alors, l'évêque d'Homs ne pouvait pas rester à Homs parce que son quartier était tenu par des rebelles islamistes. Et les rebelles islamistes persécutent et tuent les chrétiens. Ils l'ont fait encore récemment à Maloula. Mais lui m'a raconté, parce que je lui ai dit, mais monseigneur, au départ, j'ai pas assisté, moi j'ai pas jamais eu à cette époque de visa malheureusement pour la Syrie, mais il y avait bien des chrétiens dans ces manifestations, imiter des manifestations au Caire ou en Tunisie, je parle donc des manifestations de mars 2011, et il me dit oui, il y avait là même beaucoup de chrétiens qui participaient à ces manifestations, mais ce qui s'est passé, m'a-t-il dit, c'est que ce sont assez vite infiltrés des éléments radicaux qui ont commencé à tuer les petits fonctionnaires comme des suppôts du régime, les facteurs, les instituteurs, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, m'a-t-il dit, là, les chrétiens ont tout à fait quitté l'insurrection ou la rébellion contre le régime dictatorial de Bachar, et que la fracture s'est imposée. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce que Jean-Pierre Filiu a parlé du peuple syrien, il est allé, je crois, il a eu la chance, et pouvant se cacher et parlant bien arabe, donc se faire passer pour un arabe, un local, en juillet 2013 à Alep, si je ne m'abuse. Ça, c'est une chance que je n'ai pas, malheureusement.
Une chance, c'est un risque.
Un risque.
Une chance, un risque, quand
même. Voilà. Et donc, je peux pas vous dire, mais en revanche, j'avais quand même remarqué que quand une partie d'Alep tombe aux mains des Katibas rebelles, j'ai pas remarqué que la population, et j'ai pas remarqué que les quelques journalistes qui étaient, qui me l'ont raconté, se fût soulevée, comme la population parisienne s'est soulevée pour accueillir les libérateurs de la deuxième DB de Leclerc. Il est certain que dans cette rébellion, alors que ce sont les laissés pour compte, les sunnites laissés pour compte du développement du régime à partir des années 2000, parce qu'il y a eu le tourisme, il y a eu un développement économique, ces laissés pour compte sont des villageois ou des banlieusards, mais il y a quand même aussi beaucoup de sunnites qui sont du côté du régime. La femme de Bachar, elle est sunnite. Ali Mamlouk, le chef des services secrets, il est sunnite. Et donc, à Damas, il y a quand même beaucoup de sunnites qui vivent. Et puis, ce régime tient toujours. Il faut quand même voir que les meilleurs analystes nous ont promis, nous ont prévu, Hillary Clinton en tête, qui a quand même des centaines et des centaines d'analystes à sa disposition quand on était secrétaire
d'État, allait s'effondrer très vite.
Que le régime allait s'effondrer dans les semaines qui suivaient le fameux attentat du 18 juillet 2012, où le beau-frère...
Alors, quel est le sens de cette guerre, Renaud Girard ? Parce que s'agit-il quand même d'une révolution démocratique ? On parle beaucoup, il me semble que dans vos articles, vous y insistez aussi, d'une guerre confessionnelle, d'ailleurs, plus large, étant donné notamment le soutien, et on en parlera, de l'Iran au régime, la part prise par le Hezbollah dans cette guerre, donc une sorte de djihad entre les chiites et les sunnites. Oui, et d'un autre côté, vous dites, il y a beaucoup de sunnites qui soutiennent Assad. Alors, que comprendre, oui, quelle définition donneriez-vous vous-même à ce conflit ?
On ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas combien... Parce qu'on sait, il y a une rébellion, il y a une insurrection, il y a eu des manifestants, c'est tout à fait sûr. Il est tout à fait sûr également que ces manifestants, au départ, réclamaient la démocratie. Il est tout à fait sûr que Bachar aurait pu jouer, d'ailleurs, ce jeu. Et qu'il ne l'a pas joué, qu'il a en fait, il a fait des discours, il n'a pas rempli les promesses de ses discours des mois de mars et d'avril 2011, ça c'est tout à fait certain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a la majorité du peuple contre lui ? Moi je le dis à Jean-Pierre Filius, j'en sais rien, parce qu'on ne l'a pas sondé. Il a certainement avec lui, ça certainement, toutes les minorités aujourd'hui, qui sont les Alaouites, les Ismaéliens, les chrétiens, les Druzes, et très certainement les Kurdes, et très certainement les Kurdes qui sont aussi avec lui, qui ne reviendront jamais dans une Syrie unitaire, mais les Kurdes sont certainement avec lui, et une partie des sunnites, de cette bourgeoisie sunnite, qui ne veut pas de l'aventure des rebelles, qui sont quand même aujourd'hui à dominante islamiste. Alors par ailleurs, effectivement, dans la conclusion du livre de que vous nous avez lu, je trouve qu'il manque quelque chose, même si par ailleurs, Jean-Pierre Filiou en a parlé dans plusieurs autres interventions, il n'ignore pas le fait, c'est que cette guerre s'inscrit, n'est-ce pas, dans une guerre beaucoup plus large, une guerre de religion qui a commencé Alain Finkielkraut, qui est la guerre sunnite-chiite, qui est une guerre de religion comparable aux guerres de religion que nous avons connues chez nous en Europe au XVIe siècle, et qui, d'ailleurs, s'étend malheureusement un peu au Liban aujourd'hui, de plus en plus, jusqu'au Pakistan, au Yémen, en Irak, bien sûr, en Irak. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'à cause de cette guerre sunnite-chiite, 140 000, il y a à peu près 4 ou 5 jours, 140 000 personnes ont quitté une région que je connais bien, qui s'appelle l'Ambar, qui est Ramadi, qui est à l'ouest, n'est-ce pas, de l'Irak, à la frontière de la Syrie, à cause de cette guerre physique.
Donc on est en plein dans une guerre. Les sunnites ou les chiites ?
C'est toute la population qui est prise
dans cette guerre
où les mouvements sunnites sont des mouvements liés à Al-Qaïda qui sont en insurrection contre le gouvernement central, qui est un gouvernement, le gouvernement irakien, est dominé par les chiites. Oui. À cet égard, il est en fait l'allié de l'Iran et l'allié du gouvernement de Bachar el-Assad. Il y a un axe chiite qui est Iran, Irak, Syrie de Bachar et Hezbollah libanais. Et cet axe combat un axe sunnite, qui est la rébellion sunnite en Syrie, mais aussi soutenu par l'Arabie saoudite, le Qatar, les pétromonarchies sunnites du Golfe Persique et évidemment les puissances occidentales, puisque dans l'axe chiite, lui est soutenu par la Russie.
Alors, que répondez-vous à cela, Jean-Pierre Fidu ?
Je pense qu'effectivement, c'est un parfait prêt-à-penser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette grille d'interprétation, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On peut tout ramener à cela. Et je signale qu'effectivement, les 140 000 personnes qui viennent de quitter la province sunnite d'Anbar sont des sunnites, donc qui n'ont pas été expulsées par des chiites, mais par d'autres sunnites. Donc déjà, pour le seul exemple que vous citez, c'est un petit peu plus compliqué.
Des sunnites qui sont en rébellion contre le gouvernement chiite de Bagdad, hein, ceux qui les ont chassés. Il y a une rébellion sunnite extrémiste contre le gouvernement chiite de M. Maliki à Bagdad. Ça, c'est un fait.
Oui, j'ai compris. Mais enfin, c'est comme des sunnites qui ont chassé des sunnites.
Des sunnites pro-gouvernementaux.
Voilà. Des sunnites pro-chiites.
Des sunnites pro le gouvernement central chiite.
Des sunnites pro chiites.
Ouais, des sunnites pro chiites.
Alors d'accord. Vous ne pensez pas vous que donc je cette pense, grille d'analyse je pense que puisse c'est, être utilisée.
Je pense que d'abord en période de contre-révolution aussi barbare hein, que ce soit en Syrie comme ailleurs, la première priorité des despotes est de générer des rideaux de fumée, de l'encre noire, que sais-je, pour qu'on n'y comprenne plus rien. Et je considère que mon tout petit niveau d'universitaire, il faut inlassablement essayer d'expliquer et d'interpréter. Quand j'étais à Alep, et je remercie Renaud Girard qui lui a connu ô combien des théâtres de guerre de rappeler que j'y étais, je n'étais sous la protection d'aucune katiba, j'étais totalement libre, immergé dans la résistance civile, et donc avec une possibilité de critique très forte. Alors effectivement, vous avez raison, la population n'est pas sortie manifester quand les katibas prenaient, parce qu'on n'est pas à Paris en 1944. À tout moment, le régime peut bombarder. Hein. Il a la maîtrise absolue de l'espace aérien. Et au jour où nous parlons, il y a des bombardements quotidiens sur Alep par ce qu'on appelle des barils, c'est-à-dire des containers de TNT chargés de grenailles. Donc ça n'encourage pas les mouvements de masse. J'ai même vu le contraire, c'est-à-dire j'ai vu des manifestations très critiques à l'encontre de la guérilla. Ce qui m'a paru une saine chose. C'est-à-dire plutôt qu'ils sortent dans la rue en disant « vive le commandant machin » ou « vive la katiba truc », c'était au contraire « vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme les séides de Bachar el-Assad ». Et c'est là où je sens une dynamique populaire qui est toujours à l'œuvre et qui, à mon avis, est révolutionnaire et qui est la seule qui a pu expliquer que des sunnites d'Alep ont expulsé des sunnites d'Al-Qaïda qui menaçaient leur révolution. Alors je ne suis pas, évidemment, assez aveugle pour dire que les sunnites et les chiites s'aiment d'un amour immodéré ou que ce soit dans le monde arabe. Mais là aussi, si on prend les 14 siècles de l'histoire de l'islam, les conflits les plus inexpiables ont été inter-chiites et inter-sunnites plutôt que sunnites-chiites. Je pense donc qu'on a une construction aujourd'hui qui est efficace parce qu'elle est animée par deux choses, c'est-à-dire deux régimes impitoyables, l'Arabie saoudite et l'Iran, et par une ressource pétrolière quasiment infinie, avec un baril de pétrole à plus de 110 dollars. Aussi bien le régime de l'ayatollah Khomeini que le régime du roi Abdallah sont paniqués par la contestation intérieure. Pour détourner cette contestation intérieure, il faut qu'ils la chiitisent en Arabie saoudite et qu'ils la sunnitisent en Iran. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du fond derrière cette construction, mais que cette construction sert des intérêts qui sont des intérêts de régimes, dans les deux cas, profondément contre-révolutionnaires.
Vous êtes un bon dialecticien, l'infini groupe, parce que vous êtes un bon dialecticien. On nous apprenait autrefois en cagne, en philo, que la vérité, elle est dialectique. C'est une bonne émission parce que l'analyse que vient de faire Jean-Pierre Filiu, je la partage totalement. C'est-à-dire une Arabie saoudite qui essaie de sunnitiser l'aspiration à la démocratie et réciproquement l'Iran qui chiitise ses mouvements, parce qu'il faut effectivement rappeler que ces puissances, que Al Jazeera, la chaîne du Qatar, et que ces puissances et pétromonarchies du Golfe ne sont pas aussi attachées à la démocratie qu'elles le prétendent, parce que j'ai couvert moi-même des printemps arabes dans une petite île qui s'appelle Bahreïn. À Bahreïn, vous avez une majorité de la population, c'est comme ça, elle est chiite. Cette population a manifesté pacifiquement, j'étais au milieu d'eux, pour demander la démocratie, la monarchie constitutionnelle qu'on leur avait promis au départ des Anglais, parce que la monarchie, elle est, c'est la famille Khalifa qui est unie aux Saoudiens, la royauté saoudienne. Les chars saoudiens sont intervenus pour réprimer ces manifestations, et j'étais là, ces manifestations de la communauté chiite majoritaire qui simplement demandait le droit de vote. Et on n'a pas entendu les Américains, les ONG, Al Jazeera, la BBC s'enflammer pour la cause de la démocratie au Bahreïn. On l'a un petit peu oublié. Alors quand effectivement ces pétromonarchistes sunnites me disent « nous sommes pour combattre », et vous voyez aussi ce qui se passe au Koweït, nous sommes là pour avancer et faire gagner la démocratie en Syrie, je n'y crois pas une seconde.
D'accord, mais alors revenons sur l'aspiration initiale. Le printemps arabe, la révolte des peuples, le désir de démocratie. Vous dites vous-même, dans votre livre « Le Nouveau Moyen-Orient », Jean-Pierre Filiu, que le slogan contestataire, c'était « Dieu, la Syrie, la liberté et rien d'autre ». Alors, peut-on concilier vraiment l'aspiration à la démocratie et le concept de Dieu ? Est-ce que ça ne mène pas quand même à l'islamisme ? Est-ce que ça ne condamne pas les minorités, en tout cas la minorité chrétienne, à la marginalisation, voire la persécution ? Que vient faire Dieu dans une révolution dite démocratique ? Jean-Pierre Filiu.
On pourrait gloser longuement, et vous le feriez sans doute mieux que moi, sur Dieu dans la révolution précédente. Mais il faut savoir que le slogan du régime, c'est Dieu...
La Syrie, Assad et rien d'autre.
Assad et rien d'autre. Donc Dieu est équitablement
Ah oui, partagé, ça veut dire. Mais je ne dirais pas, voilà. Dirai pas que le régime a quelque chose de sympathique. Enfin, c'est un despotisme atroce.
Tout à fait. Mais la question de la religion est posée très simplement et très directement dans les rues d'Alep, hein, où je me trouvais, où vous avez ce graffiti que je trouve extraordinaire, qui est devant la mairie d'Alep, mairie qui est la première fois élue par la population, de même que le gouvernorat l'est, dans des conditions délicates, hein, mais ça a été vote renouvelé il y a encore quelques semaines, hein, première élection au printemps et renouvellement. La religion est pour Dieu et la souveraineté est au peuple. Nous, en termes de définition de laïcité, c'est pas mal. Mais là encore, loin de moi, l'illusion hein, sur la dimension islamiste dans la révolution, de même qu'elle est présente dans toutes les autres révolutions arabes, je pense qu'elle est compatible, comme la Tunisie vient de le montrer, au bout de 3 ans de conflits parfois très durs, avec les aspirations du camp nationaliste.
Mais est-ce que la constitution votée aujourd'hui en Tunisie est plus satisfaisante du point de vue de l'état de droit, des droits de l'homme, que la constitution de Bourguiba?
Ah oui, elle instaure une liberté de conscience qui est une première dans le monde arabe. Mais surtout, elle est le fruit d'un accommodement entre deux courants qui ne pourront jamais l'emporter l'un sur l'autre, un courant qu'on va dire nationaliste et un courant islamiste, qui anime l'ensemble des pays arabes depuis 2 siècles. La Renaissance arabe, c'est cela. Et la Renaissance arabe, pour qu'elle s'accomplisse, qu'elle accomplisse ses promesses de libération des peuples, il faut que ces deux courants concilient leurs aspirations et ne considèrent pas que l'un doit écraser l'autre. Et j'insiste sur le fait que cette Renaissance arabe laisse historiquement l'Arabie centrale hors champ et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'Arabie saoudite revenir avec toute la force du pétrole pour saboter au sens propre le processus de libération. D'ailleurs, sinon, on ne peut pas comprendre comment l'Arabie saoudite finance à fonds perdus le coup d'État militaire en Égypte. Hein. C'est qu'on est effectivement dans une régression contre-révolutionnaire où l'Arabie saoudite est pleinement engagée.
Alors, là, à propos de régression contre-révolutionnaire, vous venez de parler d'Égypte. Alors, je voudrais vous soumettre un article que vous avez peut-être lu l'un et l'autre, paru dans Libération il y a quelques jours, « Retour d'Égypte, premières impressions après le référendum ». Il est signé par un certain nombre de spécialistes du Moyen-Orient, je cite Agnès Levallois par exemple, et Jean-Yves Moisseron. Ceux-ci, justement, insistent sur le soutien dont a bénéficié l'armée au moment où celle-ci a renversé Morsi. Et il est vrai que les manifestations étaient encore plus imposantes qu'en 2011, lorsqu'il s'agissait de mettre à bas le régime de Moubarak. Et il parle de l'expérience traumatisante que fut celle du gouvernement Morsi, donc arrivé démocratiquement au pouvoir, mais il s'agissait de la tendance islamiste, des frères musulmans, son mépris de la situation économique de l'Égypte et la dégradation accélérée des conditions de vie du citoyen. Et si l'opinion a été très positive en faveur de l'armée, c'est parce que le régime Morsi, enfin, a été perçu comme une profonde atteinte à l'identité égyptienne, mettant de surcroît en danger sa sécurité intérieure et extérieure, voire sa survie collective et individuelle.
C'est tout à fait vrai.
Donc on ne peut pas parler là, enfin, simplement de contre-révolution.
Non, c'est tout à fait vrai. Et là, j'ai beaucoup étudié, j'étais d'ailleurs au mois de juin et juillet en Égypte, et j'en parle beaucoup dans mon livre là, qui vient de sortir, Le Monde en Marche. C'est tout à fait exact. Il y a les frères musulmans ne sont pas au départ de la révolution égyptienne. Ce sont plutôt la jeunesse, les blogueurs, etc. Ensuite, ils vont se rallier, parce que les frères musulmans, depuis une dizaine d'années, collaboraient avec le régime de Moubarak. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils gagnent les élections parce que c'est la seule partie organisée. C'est un parti très fort, les frères musulmans. C'était fondé en 1928, organisé sur le modèle mussolinien, fasciste à l'époque, par Hassan el-Banna. C'est un mouvement très, très important, très fort, le mouvement des frères musulmans. Donc, grâce à leur organisation, ils gagnent. Et puis, Morsi va gouverner. Et il y a deux choses qui se passent. C'est que, premièrement, il y a une grande incompétence dans les ministères. Ça, c'est tout à fait certain. Et aussi une idéologisation, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait nommé là parce qu'on pensait qu'il pourrait faire ça, parce que les frères musulmans avaient une réputation, c'est-à-dire justifiée d'honnêteté, c'est-à-dire ne pas être corrompus financièrement, mais il y a eu cette idéologie qu'ils ont essayé d'appliquer, et donc ils ont commencé à expliquer au peuple égyptien que la femme n'était pas vraiment l'égal de l'homme, mais le complément de l'homme, et ça, tout ça, évidemment, n'est pas passé la population. Alors là, se sont organisés un mouvement qui s'appelle Tamarot, ça veut dire rébellion en arabe, extrêmement important, avec des millions et des millions de personnes qui ont manifesté contre ce régime, une énorme déception à l'égard de Morsi, la peur de la dictature, même de la dictature islamiste, en fait, en quelque sorte, du non-respect de cette révolution démocratique, et un véritable soulagement à l'accueil du coup d'état militaire du général Sissi du 3 juillet 2013. Ensuite, il y a eu des contre-manifestations de frères musulmans auxquelles j'ai assisté, mais qui n'étaient pas très nombreuses, pas très violentes, mais pas très importantes. Une maladresse, bien sûr, du régime militaire égyptien. Mais il faut quand même voir aussi qu'il y a eu cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution égyptienne qui fait, selon moi, des progrès, bien sûr, par rapport à la constitution islamiste, parce qu'il y a la liberté de conscience qui est reconnue, et l'égalité entre les femmes et les hommes qui est reconnue. Et cette constitution, Alain Finkielkraut, a été adoptée en Égypte avec 39% de participation et à 99% des voix, parce que les frères musulmans avaient appelé au boycott. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Moi, je vous dirais, c'est beaucoup. Dans une démocratie, même, c'est beaucoup que 40% du peuple se soit déplacé pour approuver cette nouvelle constitution. Et c'est en tout cas des chiffres beaucoup plus importants, en chiffres absolus, que les Égyptiens et les Égyptiennes qui se s'étaient déplacés pour approuver la constitution islamiste proposée par Morsi en 2012. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les conclusions de cet article publié dans Libération. On ne sait pas ce que le régime militaire va devenir. En fait, le problème, Alain Finkielkraut, c'est que dans ce monde arabe, il y a toujours une alternative infernale qui est l'alternative entre le pouvoir militaire et les frères musulmans. Quand les Occidentaux, les Anglais et les Français quittent, n'est-ce pas, le Moyen-Orient après la Deuxième Guerre mondiale, nous quittons la Syrie en 1946, nous laissons des institutions parlementaires qui vont malheureusement fonctionner que jusqu'en 1948. Après, il y a des coups d'État militaires, et des insurrections des frères musulmans. C'est une alternative infernale. Il faut sortir de cette alternative entre régime, dictature militaire et frères musulmans, et trouver ce qu'on appelle la troisième voie. Et je partage l'espoir de Jean-Pierre Filiou. J'ai beaucoup couvert les affaires tunisiennes. J'étais là quand Chokri Belaïd a été assassiné. C'est un martyr de la liberté de cette nouvelle constitution. Et je crois voir, j'espère, c'est le seul espoir
de ces révolutions arabes. C'est le seul point positif de cet hiver arabe, c'est cette troisième voie qui semble apparaître en Tunisie avec, comme l'a dit Jean-Pierre Filiu, l'accommodement entre les laïcs, disons, et les islamiques.
Oui, mais alors, simplement, si je vous ai bien compris, Jean-Pierre Filiu, vous mettriez les militaires aujourd'hui au pouvoir en Égypte, sans hésiter, du côté de la contre-révolution. Absolument. Alors que, semble-t-il, les choses sont beaucoup plus compliquées, puisqu'il y a eu ce mouvement, il y a eu cette aspiration populaire, et c'est un peu la conclusion de l'article que j'ai cité tout à l'heure. Et
il y a eu deux coups d'État militaires en Égypte. En février 2011, l'armée renverse Moubarak, faisant donc droit aux revendications populaires de chute du dictateur, mais elle conserve le pouvoir par la junte, donc Conseil supérieur des forces armées. Puis le deuxième coup d'État, où très vite, on se rend compte que le mouvement sympathique, plein d'élan, très prometteur, qui avait conduit à ce coup d'État, est totalement détourné. Parce que si justement on veut, et je souscris pleinement à ce désir, à cette aspiration, je dirais même à cette profession de foi, sortir de l'alternative islamiste militaire, à ce moment-là, il ne faut pas faire ce que font les militaires en Égypte maintenant, c'est-à-dire coffrer tous les militants de la place Tahrir, tous les blogueurs, tous les démocrates, tous les libéraux. Il ne faut pas envoyer une vingtaine de vos confrères, Renaud Girard, comme ça a été le cas ces derniers jours, en prison pour accusation d'espionnage. Ala Abdel Fattah, vraiment symbole de Tahrir, ne peut faire passer de correspondance avec l'extérieur que sur du papier toilette, vu qu'il ne peut rencontrer ni avocat, ni membre de sa famille. Donc on est dans une régression absolue sur le plan des libertés individuelles et collectives, quel que soit le texte que l'ancien élève de l'ENA, aujourd'hui président, par intérim de l'Égypte, a concocté à l'attention de son pays avec les virgules et les alinéas qui vont bien.
Oui, mais Jean-Pierre Filiu, en même temps, force est de constater que les frères musulmans au pouvoir, ça a été une expérience absolument désastreuse. Et qui nous garantit? Et qui nous garantit?
Vous imaginez si leur expérience avait été réussie? Que ne serions-nous pas en train de dire? Donc, justement, l'expérience a été désastreuse. Donc, justement, l'islamisme était en train de scier littéralement la branche sur laquelle il était assis. Et plutôt que de les laisser tomber tel un fruit mûr, on en fait des martyrs, on nourrit pour les générations à venir le récit de leur militance écrasée par la botte des militaires. Et accessoirement, mais ça ne rentre pas dans le débat qu'on a présentement, on fait du Sinaï un sanctuaire djihadiste qui va sans doute faire trembler la sécurité régionale pendant de longues années.
Bien sûr, mais qui nous garantit que ce ne sera pas au cas où les insurgés l'emporterait sur Bachar el-Assad, ou au cas très improbable où aboutiraient les négociations de Genève, qui nous garantit que ce ne serait pas un pouvoir islamiste qui vaincrait aujourd'hui en Syrie. On a l'exemple égyptien, la Tunisie est très loin. Il y a en Tunisie quand même une certaine tradition de l'émancipation féminine, qui doit, me semble-t-il, jouer beaucoup dans le tournant pris par la Révolution. Donc il y a un passé qui n'est pas qu'un passé de malheur. Donc voilà, peut-on vraiment tabler sur la Révolution syrienne encore, Jean-Pierre Filiu?
Non seulement encore, mais plus que jamais. Parce que sinon, le double cauchemar, alors là, c'est pas l'alternative militaire et islamiste, c'est l'alternative Bachar et djihadiste, tous les deux ayant un potentiel terroriste qu'on ne saurait sous-estimer. Mais je crois qu'il faut surtout renverser la vision. Et une des grandes victoires du despote, c'est d'avoir interdit l'accès au terrain syrien. Et je veux saluer ici Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres, qui ont été kidnappés dans l'exercice de leur métier de journaliste.
Kidnappés par des rebelles.
Kidnappés par un groupe qui visiblement a de très bonnes relations encore avec le régime syrien.
Ça groupe, c'est intéressant parce que j'en parlais hier avec moi je pense qu'ils ont été kidnappés par des rebelles et j'étais hier, je parlais avec une amie, il y avait aussi une grande défendresse des droits de l'homme qui a été kidnappée en décembre 2013 dans une banlieue tenue par les rebelles de Damas. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc il faut quand même, je crois, dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, hélas, la grande majorité, je salue effectivement ce qui s'est passé à Alep et j'ai vu qu'effectivement les Al-Qaïda a été chassé de certains quartiers par d'autres katibas, mais malheureusement il faut voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. La rébellion, elle est très majoritairement islamiste en Syrie et il faut faire très attention parce que nous appelons effectivement le régime de Bachar est désagréable. Et d'ailleurs, je pense que nous
plus
aurions...
Plus que désagréable, quand même.
Oui, oui, c'est une dictature. Je pense d'ailleurs que nous aurions dû lui taper dessus. Oui, je trouve qu'on aurait dû lui taper dessus. Quand ils ont tué notre ambassadeur en 1980 à Beyrouth, il n'aurait pas fallu accepter ça. Je pense qu'il fallait leur taper dessus quand...
De la mare, c'est ça ?
De la mare. Quand, je trouve qu'il aurait fallu taper sur le régime. Quand les chrétiens d'Achrafieh se faisaient bombarder par des obus syriens. Et j'étais au milieu d'eux en 89 à Beyrouth. Au lieu de cela, nous avons donné, nous occidentaux, le Liban en proconsulat à la Syrie, à la conférence de Taïf, avec les Saoudiens, bien sûr, et l'Akhdar Brahimi, en 1989, à la conférence de Taïf. Monsieur Kerry, qui était sénateur à l'époque, déjà intéressé à cette chose-là, n'a à l'époque absolument pas protesté. Et donc, ce proconsulat syrien sur le Liban s'est étendu jusqu'en 2005. Après, il y a eu des manifestations gigantesques pour demander le départ des Syriens. Donc, je pense que nous avons... Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention. Parce qu'on a envisagé, n'est-ce pas, à la fin du mois d'août 2013, une intervention occidentale en Syrie, où elle a été proposée à plusieurs reprises. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que... et d'ailleurs, c'est un modèle pour toutes les interventions extérieures dites humanitaires. Parce que est-ce qu'on est sûr par qui on remplace Bachar al-Assad ? On ne devrait pas renverser un dictateur qui s'appelle Kadhafi ou Bachar si on n'est pas sûr, si on n'a pas quelqu'un à mettre à sa place. Si on n'est pas sûr aussi, Alain Finkielkraut, que le système qu'on mettra en place sera meilleur que celui qui était pour. Parce qu'on prétend protéger les populations. Et donc, si on n'est pas sûr d'un système meilleur, et aujourd'hui, le système en Libye, il est pas meilleur que le système de Kadhafi, il est inférieur. Les gens n'ont plus la sécurité même d'aller de Tripoli à Benghazi. Je m'entretenais récemment, je connais bien la Libye, je m'entretenais récemment avec des Libyens sur ce sujet. Et puis, il faut aussi un modèle qui soit conforme à nos intérêts. Parce que si on fait la guerre, et si nos gouvernements font la guerre...
Il n'est plus question de faire la guerre aujourd'hui, puisque maintenant, les Occidentaux, les amis de la Syrie, cherchent, par les conférences de Genève 2, à rapprocher les partis, ce qui semble
impossible. Le gouvernement français était favorable à armer les rebelles, ce que je trouve une folie furieuse, était pour la guerre. Oui. Le président Hollande avait parlé d'une expédition punitive. Vous savez, envoyer des bombes sur un pays, ça s'appelle faire la guerre. Bon, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, il y a eu un changement à 180 degrés d'attitude d'Obama, qui avait dit des lignes rouges ne devront pas être franchies. Il n'a pas respecté son propre promesse là-dessus, sur les lignes rouges des bombardements chimiques, parce que Obama, c'est très simple, Alain Finkielkraut, Obama a constaté qu'il y avait déjà eu deux interventions américaines en terre d'islam pour mettre la démocratie, c'est-à-dire une intervention en Irak et une intervention en Afghanistan, que ça avait complètement échoué. Aujourd'hui, l'Irak est le terrain, il faut le dire quand même, d'affrontements confessionnels extrêmement violents qui font 50 morts par jour à Bagdad entre les chiites et les sunnites, qu'on le veuille ou non, malheureusement c'est comme ça. Et donc les milliards, les centaines de milliards, les hommes que les Américains ont perdus en Irak ont servi strictement à rien. Les gens à Bagdad me disent, oui c'est vrai, on n'aimait pas le régime
de Saddam Hussein. Oui, c'est vrai, on n'avait pas de liberté politique, mais on avait la sécurité. Nos enfants pouvaient aller à l'école, on pouvait se promener. Je me promenais à Bagdad, je faisais mon footing à 2h du matin quand il faisait frais à Bagdad. Il m'arrivait strictement rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de la sécurité. Il faut se souvenir toujours, quand on fait des interventions humanitaires, que la dictature militaire, c'est horrible, mais qu'il y a toujours pire que la dictature militaire, c'est l'anarchie. Et il y a même toujours pire, l'infiquelkraut, que l'anarchie, c'est la guerre civile.
Donc après ce tableau apocalyptique, on constate qu'une fois de plus, les Syriens payent pour les erreurs de tout le monde. Les erreurs faites en Irak, ils payent pour la Libye, ils payent pour l'Afghanistan. Donc reparlons des Syriens. Les Syriens, ils essayent dans des conditions tout à fait extrêmes de bombardement quotidien. Vu que ces rebelles que Renaud Girard ne veut pas armer, eh bien, du coup, ils n'ont aucune protection contre les hélicoptères, contre les avions, contre les missiles qui leur tombent dessus en toute liberté.
Je ne veux pas les armer parce que je ne veux pas que ça se retourne contre moi. Je me souviens très bien, Jean-Pierre Filiou, j'étais à l'époque avec les Moudjahidines afghans qui combattaient l'Empire du Mal, ce qu'on appelait l'Empire du Mal dans les années 80, qui était l'Union soviétique, qui avait envahi l'Afghanistan. Et les Américains ont armé un mouvement qui existe toujours, qui s'appelle le Hezb Islami. Ils l'ont privilégié même, qui s'appelle le Hezb Islami, dirigé par Gulbuddin Ekmatyar. Ce Gulbuddin Ekmatyar existe toujours. Il existe toujours en Afghanistan. Il terrorise les populations et il a un sport favori qui est de tuer des soldats américains. Donc, je ne veux pas armer des rebelles parce que, premièrement, je pense que nous n'avons aucune compétence à nous mêler de cette guerre civile en Syrie. Nous avons quitté volontairement la Syrie en 1946. Après avoir essayé d'imposer la démocratie là-bas, nous avons échoué. Nous avons nous-mêmes bombardé les mêmes quartiers en 1925 et en 1945. À chaque fois, deux gouvernements de gauche français ont bombardé les mêmes quartiers de la Ghouta, de Midan, etc. Nous n'avons pas réussi à mettre la démocratie. Je pense que nous nous sommes retirés volontairement. Je pense que nous n'avons pas, oui, Jean-Pierre Filiou, à intervenir dans cette guerre civile qui est horrible. Et je suis d'accord avec toutes vos analyses et j'insiste qu'on soit très précautionneux parce que j'ai très peur que les armes qu'on livre aux rebelles syriens se retrouvent un jour, les armes antiaériennes par exemple, à abattre un 747 civil à l'atterrissage à Roissy. Et je suis très content qu'on ait obtenu le désarmement chimique des forces de Bachar el-Assad parce que pour moi, le principal danger était que ces armes chimiques tombassent un jour dans les mains des djihadistes et qu'on se retrouve avec un attentat au gaz sarin dans les métros de New York, de Moscou ou de Paris.
Alors Jean-Pierre Filiou.
Alors d'abord, la France a fait tout ce qu'elle a voulu en Syrie de 1920 à 1946, mais elle n'a jamais voulu y instaurer la démocratie.
Enfin, elle a laissé un
parlement. Elle n'a jamais voulu y instaurer la démocratie, vu que chaque fois qu'il y avait des votes, les gens finissaient en tôle, parce qu'évidemment, les gens qui étaient élus démocratiquement, ils étaient nationalistes, donc les Français ne voulaient pas travailler avec eux.
Enfin, quand Jouvenel est envoyé comme gouverneur, Jouvenel, le mari de Colette, en Syrie, il a comme même comme mission, c'était le mandat de la SDN, d'instituer le parlementarisme, quand même.
Oui. Donc...
Très bon livre de Xavier Baron là-dessus, d'ailleurs, sur l'histoire de la Syrie.
Oui. Donc les Français n'avaient pas pour priorité l'instauration de la démocratie. Les Syriens, en revanche, eux, ont opposé aux Français, dès 1932, le drapeau qui est celui qu'ils opposent à Bachar el-Assad aujourd'hui, qui est un drapeau à trois étoiles, qui est celui de l'unité de la Syrie, donc Damas, Alep et Deir ez-Zor. Et ces mêmes Syriens qui luttaient contre les Français, qui aujourd'hui complètement désarmés, vulnérables face aux frappes quotidiennes du régime, eh bien ils votent. Ils arrivent encore à organiser des élections. Et ils votent à Alep, et ils votent pour la province. Ils ont des conseils locaux. Donc plutôt que de se pencher, parce que de toute façon ça ne sert plus à rien en 2014, hein, parce que ça c'est justement ce qu'on a fait en Afghanistan et en Irak. On introduit tant de GIs et à la fin, on a la démocratie qui sort. Ça, tout le monde sait que ça ne marche
pas. Alors, qu'est-ce qui marcherait ?
Ce qui marche, c'est le terrain. C'est faire confiance aux populations. Leur donner enfin le droit de s'exprimer. C'est ce qui se passe dans des modes qui sont extrêmement dangereux, vu que tous ces militants, et vous avez rappelé le cas de Razan Zaitouneh, qui a effectivement été enlevé il y a peu de temps et dont on exige la libération inconditionnelle, tous ces militants risquent...
Vous exigez, mais vous n'avez absolument aucun des moyens de l'exiger, puisque l'ensemble de cette région est tenue par les katibas islamistes.
Dont on exige la libération inconditionnelle auprès de qui vous voudrez, M. Renaud Girard,
vu auprès que des calibas savez... islamistes qui ne vous entendent pas. J'aimerais bien qu'elles nous entendent pour libérer mon ami et camarade Didier François.
Et donc, vous avez les adresses, vous avez les téléphones, vous savez qui les détient, vous êtes au courant de tout ça, moi pas.
Hein. On sait, enfin, d'après ce que dit, j'ai une conversation hier avec Serge Julie, qui est proche, parce qu'il était son patron à Libération, proche de Didier François, qui m'a dit que ceux qui détenaient les journalistes français et espagnols d'ailleurs, c'est l'ISIS en anglais, ou en français, oui, c'est l'État islamique en Irak et au Levant. Voilà. Voilà.
C'est Al-Qaïda. Oui.
C'est Al-Qaïda.
Voilà. Donc, voilà, Islamic donc, State in
oui, donc
in
Irak, ils ne représentent pas la majorité des rebelles, c'est ça.
Ah bah, c'est même le contraire.
C'est même le contraire, parce qu'il y a une guerre intestine.
C'est pas une guerre intestine, ils appellent ça la révolution contre Al-Qaïda. Ils les ont expulsés. Donc les assimiler aux rebelles et faire preuve, pour le moins, de légèreté. Mais la question est que si les Syriens arrivent aujourd'hui au bout, on peut totalement renverser le raisonnement qui a été tenu plus tôt, si au bout de au moins 130 000 morts, à mon avis beaucoup plus, un Syrien sur trois forcé de quitter ses foyers, eh bien ils continuent à maintenir intacte leur exigence de départ de Bachar el-Assad, c'est qu'effectivement cette dynamique révolutionnaire, à mon avis, ira jusqu'au bout. Donc la question ne se pose pas d'une intervention d'humanité. La question est de savoir, est-ce qu'on veut avoir des amis ou au moins des non-ennemis demain à Damas? À ce moment-là, il faudrait peut-être mieux les aider avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils deviennent encore plus hostiles du fait du sentiment d'abandon qu'ils ressentiront ou pas. Et enfin, on peut constater que la politique de non-intervention aboutit à un résultat extraordinaire, qui est qu'aujourd'hui, on a un sanctuaire djihadiste en Syrie comme on n'en a jamais vu dans l'histoire récente, jamais. Hein, on n'a jamais eu cette proportion de jeunes militants qui peut aussi facilement aller sur place. On sait les chiffres qui sont mentionnés pour la France. 700 au total, dont 250
là,
sur le terrain syrien.
Arrêtons-nous une seconde. On parle effectivement de Français, de Danois, de Belges, qui vont, de Hollandais, qui vont faire le djihad. Alors d'abord, on s'arrête une seconde à ce terme, des Français qui vont faire le djihad. Si on se dit que la France française, c'est pas simplement ce qui qualifie un passeport, c'est une phrase absolument incroyable tout de même. Il est clair que le djihad ne fait pas partie de l'histoire de France, de la tradition française. Un Français qui fait le djihad...
Des jeunes paumés issus de l'immigration musulmane...
Bon, c'est une aberration. Mais ensuite... alors, comment se fait-il, justement, que ces idéalistes aillent en Syrie pour faire le djihad? Pourquoi, par exemple, ne vont-ils pas rejoindre l'armée syrienne libre? On pourrait le comprendre. C'est-à-dire, ils voient des images atroces. Effectivement, il y en a. Et elles nous scandalisent. On est obligé de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On a encore vu avant-hier une image au journal télévisé, un bombardement à Alep, des secouristes qui fouillent et qui trouvent une petite fille de un an sous les décombres, et il la sauve au dernier moment. C'est abominable. On se dit, on ne peut pas laisser faire ça. Admettons qu'on y aille. Mais pourquoi faire le djihad? Pourquoi est-ce cela qui résonne si fort?
C'est la guerre comme elle a toujours... C'est abominable, oui, c'est la guerre. La guerre est abominable.
Oui, mais pourquoi...
Les petites filles à Berlin en 1945,
la guerre d'Espagne, on la faisait pour la révolution,
voilà,
on
ça.
La faisait pour la démocratie.
Partout,
et là, il y a l'armée syrienne libre, et on va rejoindre le djihad. Comment expliquer ça, Jean-Pierre Filiu?
D'abord, il faut comprendre le décalage énorme qui est favorisé par les réseaux sociaux entre ce qui est ressenti et ce qui est vu. Et donc, il y a, comme très souvent dans ce type de mobilisation en réseau, un sentiment conspirationniste. On nous cache tout, on ne nous dit rien, on ne nous dit pas la vérité sur la Syrie. Pendant ce temps-là, les musulmanes s'y font massacrer, etc., etc. Là-dessus, vous rentrez sur un forum où vous êtes un petit peu animé. Et puis après, vous avez la réalité de la circulation transeuropéenne qui fait qu'on peut aller en Turquie sans visa et donc rejoindre la frontière syrienne assez rapidement. Et après, là, il y a une donnée très simple, c'est que l'armée syrienne libre que vous mentionnez, elle se bat contre Bachar el-Assad. Elle ne va pas faire de la retape à la frontière. Tandis que les djihadistes, eux, ils attendent que ça. Ils savent qu'en ce moment, ça arrive et qu'ils n'ont pratiquement qu'à les cueillir.
Là où je suis d'accord avec Jean-Pierre Filiu, c'est que je dirais qu'il a parlé du terrain, de la connaissance de terrain et de l'adaptation au terrain. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je saluais son voyage à Alep, ou le voyage de Côte-Manie aussi en septembre dernier, parce qu'il faut de la connaissance. Et je pense que nous avons fait une très grave erreur lorsque nous avons fermé notre ambassade à Damas, où nous avions beaucoup de gens, d'agents des services secrets, etc., des gens qui parlaient l'arabe, qui pouvaient... parce que la diplomatie, une ambassade, ça sert à parler avec son... ennemi, ça sert à rien l'ambassade qu'on a au Danemark aujourd'hui, ça sert à parler à son adversaire. Et bien sûr qu'il fallait, on avait fait beaucoup d'efforts, notre politique n'a pas eu de constance. J'ai regretté qu'on n'ait pas aidé les chrétiens d'Ashrafi en 89, j'ai regretté ces accords de Daif, j'ai regretté qu'on n'ait pas puni la Syrie pour avoir assassiné notre ambassadeur en novembre 80. Mais là, on avait fait une politique, on a accueilli Bachar el-Assad sur les Champs-Élysées. Bon, eh bien là, il faut avoir une conscience, et donc nous aurions dû garder notre ambassade pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer peut-être de l'influencer, peut-être il n'est pas influençable.
Je pense sans pas doute, qu'il soit vraiment
sans doute pas. Mais en tout cas, connaître ce qui se passe. Et je suis là d'accord avec Jean-Pierre Filiu, c'est-à-dire que toutes les guerres ne se ressemblent pas, et que la connaissance du terrain, y compris le terrain d'Alep, y compris ce qui vient de se passer, je vous l'accorde, alors, est extrêmement important, et que nos diplomaties ne savent plus faire ça, ne savent plus aller sur le terrain pour bien comprendre, et qu'elles s'enferment trop souvent, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, dans des schémas préconçus qui ne sont pas, effectivement, qu'on ne peut pas reproduire à l'infini.
Bien, alors justement, pour en savoir un peu plus sur le terrain, je voudrais rappeler les titres de vos livres, Jean-Pierre Filiu, Je vous écris d'Alep, publié chez De Noël, celui que j'ai cité en commençant, Le Nouveau Moyen-Orient, Les Peuples à l'heure de la Révolution syrienne, chez Fayard, et Renaud Girard, vous avez publié aux éditions du CNRS Le Monde en Marche. Je voudrais citer pour finir de Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération, La mort est ma servante, récit très beau publié chez Fayard et qui est intéressant aussi parce que effectivement il rappelle qu'au lendemain de l'assassinat de notre ambassadeur au Liban par les Syriens de la mare, eh bien Roland Dumas qui allait entamé une belle carrière de ministre des Affaires étrangères, a entamé aussi une liaison avec la fille du général Klaas, un des principaux artisans de la répression syrienne. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'amitié de Stéphane Zweig et Joseph Roth. Mes invités seront Pierre Déhus et Philippe Lançon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et de Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui, Manuel Couturier, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.